L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire a été sévèrement prise à partie. Beaucoup de secrets entourent les travaux de l'agence. Sa crédibilité est devenue très faible, très très faible. Julie Fontaine du Syndicat des apiculteurs du Québec.
L'ARLA est la porte d'entrée de ces produits-là. Le Québec se doit de continuer sa réglementation, qu'elle soit encore plus efficace et plus restrictive, parce que le fédéral fait pas sa job, puis c'est nous qui en subissons les conséquences.
Des scientifiques et des médecins spécialistes sont du même avis que plusieurs groupes de producteurs agricoles. Jean Zigbee de l'Hôpital juif de Montréal est ancien président de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement.
Alors, il y a une approche toxicologique quand même rigoureux. Il demande des études importantes. Le problème, ce n'est pas qu'il ne demande pas des études qui sont intéressantes. Le problème, c'est qu'il demande les mauvaises personnes de faire ces études-là. Ça veut dire qu'on demande des informations de les compagnies eux-mêmes pour nous fournir des études qui sont d'une certaine format. Quand les études épidémiologiques, qui ne sont pas les types de recherches qui sont demandées officiellement par l'ARLA pour une homologation, sort, ce n'est pas quelque chose qui est officiellement dans le répertoire de l'ARLA et il faut changer les règlements de l'ARLA pour qu'ils prennent ça en compte. C'est un système bureaucratique. Alors, ils ont seulement le droit de prendre certaines informations en tête et ils vont nécessairement prioriser les informations qu'ils demandent aux compagnies. Alors, si on veut changer quelque chose à l'air là, il faut changer la priorité en termes d'information et comment qu'il prend en compte cette information. Alors, si vous me demandez s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il devrait à l'air là, je vous répondrai oui.
Les groupes écologistes et environnementalistes voient aussi des failles importantes à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Nadine Bachand, chercheure senior sur les questions agricoles à Équiterre, citant entre autres le cas de l'herbicide glyphosate réautorisé récemment par Santé Canada pour 15 ans.
Le gouvernement fédéral prend majoritairement les études des promoteurs, des industries qui proposent les pesticides. Et pour nous, c'est un problème important. On a vu, par exemple, pour ne donner que cet exemple-là, dans le dossier de la rémologation du glyphosate pour 15 ans encore, là, qui a été rémologué en 2017, que la rémologation s'est faite sur la base d'une littérature scientifique à 80 % fournie par l'industrie, une littérature scientifique qui datait de plusieurs années. Et on sait que la littérature scientifique au cours des toutes récentes années a vraiment foisonné sur les risques potentiels du glyphosate pour la santé et que la majorité de la littérature indépendante qu'on consulte met en lumière un risque potentiel du glyphosate pour le cancer, alors que la littérature scientifique de l'industrie sur laquelle s'est fondée majoritairement l'ARLA pour faire les rémologations minimise plutôt les risques de cancer. Ça, c'est un exemple. Il a été mis de côté, par exemple, aussi tout l'impact de ce pesticide-là sur le microbiote, donc les micro-organismes digestif de l'humain et dans les sols également, alors qu'on connaît le glyphosate pour être homologué comme un antibiotique. Donc ça a été écarté également. Ça, c'est des exemples. Donc ça, c'est des failles très, très importantes. Également, il n'y a pas d'études qui sont faites pour voir quels sont les impacts des synergies qui pourraient avoir lieu. Donc on est exposé au quotidien à, on ne sait pas combien, mais certainement plusieurs produits chimiques simultanément, plusieurs pesticides simultanément, probablement dans la même journée. Et ceci n'est pas pris en compte, entre autres quand on établit les doses journalières acceptables. Donc, il y a plusieurs failles là, qui sont mises en lumière.
Le docteur Jean Zigbee constate lui aussi que l'ARLA se base sur des études déphasées.
C'est un peu la façon systémique de l'organisation de l'ARLA. Ça veut dire que quand on veut avoir une chimique homologuée, une compagnie, il faut qu'ils soumettent beaucoup de recherches de leur part pour donner la preuve que, d'après les règles du jeu de l'ARLA, que ces produits-là sont sécuritaires pour la population. Ça veut dire que l'ARLA ne fait pas nécessairement des études indépendantes sur les produits eux-mêmes, mais que c'est les compagnies qui fournissent de base la majorité de l'information. Après ça, c'est à l'ARLA de décider s'ils vont demander encore plus d'études plus poussées aux compagnies et de décider s'ils pensent que l'information est suffisante. Il y a quand même énormément de dossiers qu'il faut traiter à l'ARLA et il y a une pression pour les faire. En regardant l'expérience en médecine avec les compagnies de chimie, c'est certain que vous allez toujours recevoir des informations biaisées. quand vous demandez quelqu'un de produire d'informations sur leurs produits qui vont leur coûter s'il y a une décision négative là-dessus. Alors, il y a un conflit d'intérêts flagrant. Si on ne base pas nos décisions sur, en même temps, les études indépendantes que les informations qui sont données par l'industrie. Qu'est-ce qui est très choquant, c'est quand on voit que la grande majorité d'évidence indépendante n'est pas prise en compte pendant les périodes d'homologation et que les études par les industries, même s'ils sont très vieux et démodés en termes de type, sont encore utilisées pour faire leurs décisions. Ça veut dire que l'homologation de glyphosate a pris compte des études qui ont de 20 ans, 30 ans d'âge, ce qui n'est plus le cas maintenant. Notre environnement change, la santé humaine change, la prédisposition de tout le système change, mais on base encore nos décisions souvent sur des informations très vieilles et on ne prend pas en compte les meilleures informations indépendantes qu'on a aujourd'hui. Alors ça, pour nous, c'est une problématique qu'il faut quand même compenser.
À la Fondation David Suzuki, on en rajoute. Neurotoxicité des pesticides. Pour le Parkinson, on le sait. Pour l'autisme, on a de forts doutes. Louise Hénaud-Étier, docteur en sciences de l'environnement, spécialiste des pesticides.
Les pesticides nuisent au neurodéveloppement. Les scientifiques indiquent aussi que l'humanité est en proie avec une épidémie mondiale de troubles neurodéveloppementaux. En France, même constat. On reconnaît maintenant le lymphome non-Hodgkinien et la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle. Ce qui s'est passé dans le cas du Parkinson, c'est que ça a pris 3 décennies à transformer des corrélations scientifiques en lien de cause à effet avec une certitude. Maintenant, il faut agir à ce niveau-là. Au niveau de l'autisme, on n'a pas encore la causalité avec certitude, mais on a les mêmes drapeaux rouges, les corrélations qu'il y avait déjà il y a une trentaine d'années au niveau du Parkinson. Est-ce qu'on va attendre encore 30 ou 40 ans avant d'agir ou si Québec va exiger des études avancées de neurotoxicité développementale dans l'évaluation de ces pesticides? Là, l'ARLA ne l'exige pas. C'est peut-être à Québec d'y pallier. Les pesticides persistent très longtemps dans l'environnement. Ils sont donc toxiques plusieurs années après qu'on les ait retirés du marché. Et on est exposé à un cocktail de pesticides au quotidien. Ça peut être jusqu'à 8 herbicides en même temps dans nos rivières, selon le ministère de l'Environnement, plus de 5 pesticides en même temps, selon les récents chiffres du MAPAC sur les pesticides dans nos aliments. Pourtant, plusieurs acteurs scientifiques disent qu'il y a des effets de synergie dans certains cas. C'est-à-dire que 2 pesticides ensemble sont plus toxiques que la somme de leur toxicité individuelle. Il faut donc agir parce que l'ARLA ne les évalue que un par un.
Et les lobbies apparaissent très importants à l'ARLA. Julie Fontaine du syndicat des apiculteurs et elle-même de la ferme au pied du loup de Saint-Georges-de-Windsor.
Le pouvoir des lobbies. J'aimerais ça que vous élaboriez un peu plus, s'il vous plaît, là-dessus.
Bien, le plus bel exemple, c'est la table apicole au niveau fédéral, qui est composée d'à peu près 40 membres. Et là-dessus, il y a seulement 3 apiculteurs. Le reste, c'est des membres, entre autres, de Crop Life et des semenciers. On avait fait des représentations auprès d'eux et on a eu une fin de non-recevoir, comme quoi que la présence des apiculteurs n'était pas requise plus que ça. Pourtant, pour les mêmes tables au niveau fédéral, la proportion des producteurs qui représentent la production ciblée est d'à peu près 35-40. Alors là, on est vraiment très loin. Je pense qu'ils ne veulent juste pas nous entendre.
Les néoniques ont été interdits en Europe en décembre dernier. Considérant cette action, trouvez-vous que l'ARLA en fait assez?
Non, clairement non. Le problème, c'est que l'ARLA se fie à des recherches fournies par les fabricants d'intrants eux-mêmes, puis ils homologuent tout et son contraire, parce qu'ils ont refait une révision des néoniques en disant qu'ils étaient dangereux pour les invertébrés aquatiques, et en même temps, ils homologuent des molécules qui sont encore plus toxiques et sur lesquels il commence à avoir des recherches qui sortent, les diamines, pour dire que oui, il y a des effets néfastes sur nos insectes. Malheureusement, ils ne tiennent pas en compte non plus les quantités phénoménales de mélanges qui se font en champ. Eux, ils homologuent une molécule, ils ne regardent que la molécule. Mais le problème, c'est qu'en champ, on mélange des fongicides, on mélange des insecticides, et là, ça décuple l'effet que ces produits-là ont sur les abeilles, malheureusement. Et ça, bien, c'est notre cheval de bataille. On veut que l'ARLA regarde ce qui se fait vraiment en champ et fasse des études basées sur les utilisations réelles.
Tellement de zones grises subsistent à propos des pesticides. Il faut encore beaucoup de recherches. Ryan Worms, directeur de la communication et de la mobilisation à Équiterre.
Nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin de faits scientifiques indépendants, de recherches et de suivi rigoureux. Nous avons besoin d'accompagnement et d'appui dans la transition pour nos producteurs. Et peut-être même, encore plus, nous avons besoin d'une action politique audacieuse.
L'information doit être scientifiquement solide, ce qui appelle de nombreuses contributions, y compris celles des agriculteurs. On est d'accord, mais tout de même prudent chez les producteurs de grains du Québec. Le président Christian Overbeck.
Ça dépend sous quelle forme et de quelle nature les données sont requises là, pour fin de recherche. C'est sûr que j'aurai toujours une certaine difficulté à divulguer des informations qui sont propres à chacune des entreprises et à les mettre là, sur la place publique.
Est-ce que c'est un enjeu de compétitivité? Vous me parlez peut-être de deux agriculteurs, un à côté de l'autre, savoir qui utilise quoi. Mais si on devait être intéressé par cette voie-là pour des considérations, notamment de santé publique, qu'est-ce qu'on devrait tenir en compte comme considération?
La santé publique, c'est un élément qui est important pour les producteurs de grains québécois et pour tant individuellement que pour l'organisation elle-même. L'élément que vous évoquez, c'est de bien connaître quels sont les besoins et l'objectif recherchés par l'acquisition de ces informations-là.
Mais, inévitablement, il faut davantage de recherches, davantage de connaissances sur les pesticides. Luc-Alain Giraldo, directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique.
Est-ce qu'il se fait assez de recherches? Je dirais que non. Et je pense que c'est l'avis de plusieurs des intervenants à votre commission. La solution, c'est de créer plus de connaissances, plus de technologies qui seraient capables de réduire davantage l'usage de ces molécules toxiques qui ont un objet, de tuer une plante ou de tuer un insecte. Donc, il faut le dire. Donc, il faut trouver absolument des manières alternatives et il n'y a pas suffisamment de recherches dans ce domaine-là actuellement.
Devrait-on inclure une formation, la formation continue des agronomes, l'obligation de suivre une mise à jour dans les connaissances sur les pesticides?
Bien, je vais appliquer mon principe de précaution, là, mais évidemment, il faut s'assurer que les gens soient au fait et connaissent les conséquences des molécules qu'ils utilisent, tant sur la terre, l'organisme vivant sur lequel ils l'appliquent, et eux-mêmes.
Et des chercheurs et chercheuses se disent prêts à s'impliquer. Valérie Langlois, de la Chaire de recherche du Canada en écologie génomique et en perturbation endocrinienne à l'INRS.
Si le Québec opte pour plus de connaissances, plus de données avant de réglementer certains de ces pesticides, les universités, dont l'INRS, nous sommes là pour remplir notre devoir de soutien en recherche indépendante pour le gouvernement.
Un autre institut, l'INSP, l'Institut national de la santé publique du Québec, souhaite aussi que la recherche s'étende. Cela est nécessaire selon la directrice générale de l'INSP, Nicole Damestois.
Afin de réduire les risques sanitaires des pesticides, pour la population et pour les travailleurs, il faut d'abord mieux documenter l'exposition. Quand on parle de la population générale en particulier, nous avons fait état plus tôt des incertitudes sur les effets à la santé, mais l'information est aussi déficiente au niveau de l'exposition aux pesticides. La principale source d'exposition de la population générale est par l'alimentation. Les programmes de surveillance des résidus de pesticides des aliments et de l'eau devraient être bonifiés. Les données ainsi produites devraient être divulguées et facilement accessibles aux chercheurs et aux autorités sanitaires. Elles permettraient une surveillance active et continue de l'exposition de la population aux résidus de pesticides et permettraient de répondre à des questions telles que « À quoi la population est-elle exposée au juste? À quelle dose? À quelle combinaison de produits? Comment cela évolue-t-il dans le temps ou selon les régions? »
Mais voilà, la diffusion de l'information fait défaut. On parle beaucoup du secret entourant les activités de l'Agence fédérale de réglementation de la lutte antiparasitaire. Il faudrait que cela change. Mais même au Québec, des données de pointe qui seraient fort utiles à la recherche et à la décision de nouveaux contrôles sur les pesticides sont inaccessibles. Des ministères ont conclu des ententes de confidentialité avec des entreprises privées. O'Neill Samuel est responsable de l'équipe scientifique sur les pesticides à l'Institut national de la santé publique du Québec.
Le principe de précaution doit s'appuyer, entre autres, sur la recherche. Il faut être capable d'avoir des données assez probantes pour l'appliquer. Sinon, on va l'appliquer pour des raisons, des fois, qui vont être nuisibles plus qu'autre chose. Donc, nous, on pense que si la recherche qu'on préconise pour mieux documenter certains effets nous amène à avoir des données assez probantes, ben on va pouvoir éventuellement aller vers le principe de précaution si c'est justifié. Mais il faut que ce soit justifié aussi.
Je vous écoute là, sur le besoin d'avoir accès à des données. Soit que les données n'existent pas ou ils ne veulent pas que vous les transférez.
De documenter les pathologies et tout ça, là, c'est une autre chose parce que les études vont souvent évaluer des effets pour un ensemble de produits. C'est pas spécifique à des produits. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu embarquer dans les produits. Mais dans les données existantes qui pourraient nous servir, les données en lien avec la vente des pesticides, ce sont des données qui existent au ministère de l'Environnement. Sauf que, en raison d'entente, de confidentialité avec l'industrie, ces données-là ne peuvent pas nous être rendues disponibles. Et ça fait longtemps qu'on les demande. Pour ce qui est des données pour les résidus de pesticides dans les aliments, c'est la même chose. Bon, il manque de données, on devrait en faire davantage, mais les données rendues publiques, le dernier rapport date de 10 ans, celui qui est sorti il y a 2 jours, ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas vu.
Quand vous nous parlez d'entente confidentielle, est-ce qu'on parle de secret industriel ou des choses de cette nature-là?
Oui, c'est de cette nature.
Au même titre que l'ARLA refuse l'accès aux études en prétextant le secret industriel par des chercheurs indépendants pour valider la pertinence et la scientificité des études.
Nous, on a fait des demandes à quelques reprises au ministère de l'Environnement pour avoir accès à ces données-là. Et la réponse qu'on a eue, c'est qu'on n'est pas capable, en raison des ententes de confidentialité qu'on a avec l'industrie.
Ici Lionel Levac. Bientôt, je reviendrai avec d'autres éléments ayant fait l'objet de discussions à la Commission parlementaire québécoise sur les pesticides. Mais, entre-temps, je vous parlerai dans mon prochain blog de protection du territoire agricole au Québec et de la discussion que souhaite mener à ce sujet l'Institut Jean Garon. Au revoir.